Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Fréquence Mistral. Il est 11h et aujourd'hui une émission exceptionnelle. Nous avons avec nous Marco Cacavo qui est enseignant au lycée international de Manosque et James Fontaine à nos côtés. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Marco Cacavo, je te laisse la parole.
Bonjour, je suis enseignant de littérature italienne et d'histoire et géographie à l'école internationale de Manosque. Et aujourd'hui, en direct des studios de Radio Fréquence Mistral, que je remercie, à Manosque, je vous accompagnerai pour un petit voyage littéraire autour de la figure d'Ulysse, autour de cet héros énigmatique que tout le monde connaît et que tout le monde associe à ses pérégrinations, dans la mer qui l'amèneront, après tant d'aventures à sa patrie natale, c'est-à-dire Ithaque, où il retrouvera enfin son titre de roi, après avoir chassé les prétendants de sa femme, Pénélope. Le voyage d'Ulysse, chanté par Homère dans peut-être le 6e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Odyssée, sont à la base de la littérature occidentale et ils ont inspiré aussi des musiciens et des artistes. Commençons ce voyage avec un très beau hommage que Georges Brassens, inspiré du célèbre poème de Joachim du Bellay, fait à Ulysse avec la chanson « Heureux qui comme Ulysse ».
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu sans paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. La liberté, avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Et nous voici de retour pour reprendre le fil de cette narration qui nous amènera à exploiter quelques pistes d'interprétation autour de la figure d'Ulysse, fils de Laërte et astucieux inventeur de la tromperie du cheval de Troie, grâce à laquelle les Grecs arrivent à prendre Troie et à vaincre la guerre, chose de plus en plus difficile après la mort d'Achille. Le mythe d'Ulysse, héros errant durant 10 ans avant de revenir, comme le dit Joachim du Bellay, plein d'usage et raison, vivre en séparant le reste de son âge, a traversé et fasciné les siècles littéraires et plusieurs générations d'écrivains. Par exemple, même de nos jours, on l'a vu pendant l'exposition Ulysse, itinéraire d'art contemporain, qui s'est tenue dans le cadre des événements prévus pour Marseille 2013. Ce personnage revient en tant que métaphore même de l'esprit découvreur et de l'esprit animé par la volonté de partage qui devrait animer tous les peuples riverains de la Méditerranée. Ulysse a traversé les siècles littéraires et aujourd'hui on tracera à grandes lignes sa figure telle qu'elle nous a été confiée par son père, Homère. Puis on verra comme Ulysse a été reçu chez la culture latine, d'une façon, pour ainsi dire, double. Enfin, ce sera le tour de découvrir comment le mythe d'Ulysse a été travaillée par les plus célèbres écrivains italiens, et même père de cette langue, Dante, auteur de la comédie. Mais on y arrivera doucement. D'abord voyons ensemble qui était Ulysse d'après Homère, d'après ses mythiques Aède, et auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. D'après cet auteur, Ulysse ne peut pas être défini par les simples mots. Il appelle en utilisant l'adjectif grec « polyutropon », c'est-à-dire plein de ressources, plein d'idées, ou bien plein de facettes. La langue française traduit cette expression avec « en mille tours », ou plusieurs aspects. Cela veut dire qu'Ulysse est quelqu'un que, grâce à son intelligence malléable, et aussi grâce à la maîtrise de la dialectique, c'est-à-dire grâce à sa capacité de bien parler, s'en sort toujours. À première vue, intelligence et dialectique peuvent sembler des choses différentes. Pensez au fait qu'il y a pas mal de gens qui parlent très bien, mais qui disent des choses pas toujours intelligentes. Mais pour l'homme grec, phrase intelligence était la même chose. Il utilisait pour le définir le même mot, c'est-à-dire logos. Ça va de soi alors qu'un homme polyutropon, plein d'idées et de ressources, tel qu'Ulysse l'était, et aussi un homme plein de mots, qui enchaînait dans un raisonnement avec une logique irréprochable et d'une façon persuasive pour convaincre son interlocuteur. Pour convaincre, c'est vrai, mais aussi Ulysse utilise la parole aussi pour mentir, pour se moquer. Comme par exemple il arrive quand il vante des fausses histoires pendant un dialogue avec la déesse Athéna, qui, déguisée pour ne pas se faire connaître, lui avouera qu'il était un merveilleux menteur. Mais ce n'est pas tout. La déesse de la sagesse et de l'intelligence, face à Ulysse, n'était pas trop sage et intelligente. En fait, elle affirme même que les mensonges d'Ulysse étaient si bien architectés que même une toute puissante déesse comme elle l'était aurait eu du mal à les repérer en tant que faux. Toutefois, le plus célèbre de ces mensonges, ou si l'on veut, la plus célèbre de cette acrobation linguistique, reste celui lié à l'épisode de Polyphème, un des cyclopes dont tout le monde connaît l'histoire. Souvenez-vous de cet extraordinaire stratagème d'Ulysse pour ne pas être poursuivi après l'aveuglement de ce mythique monstre. Pendant une soirée presque conviviale, Ulysse avait dit à Polyphème, qui demandait à connaître son nom, de s'appeler Personne. Et quand le cyclope, aveuglé par Ulysse, demanda de l'aide à ses compagnons, il jouera le rôle du fou en disant que celui qui l'avait blessé s'appelait justement Personne. Et c'est vraiment le cas de le dire, Personne comme Ulysse était l'incarnation imaginaire du parfait, astucieux. Mais Ulysse n'était pas que cela. Pour les Grecs, il était aussi l'incarnation de leur esprit découvreur. Rappelez-vous, par exemple, dans l'Odyssée, des beaux voyages sur les côtes de la Méditerranée, de celui qui, pour parler comme Homère, visita les cités de tant d'hommes, et de celui qui, sous les mers, passa par tant d'angoisses. Les voyages d'Ulysse représentent alors les grands voyages des Grecs, nourris d'esprit de découverte et animés par la volonté de coloniser des régions inconnues et lointaines, comme par exemple les terres de l'Italie méridionale, les côtes de l'Anatolie ou bien les côtes de Marseille. Ulysse, homme du Logos, Ulysse, esprit voyageur, c'est la fée de cet héros, l'homme grec par excellence, et métaphore même de la civilisation grecque. Voici son portrait, tiré de l'Odyssée d'Homère.
C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il faut me dire. Celui qui tant erra quand, de Troade, il eut pillé la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui, sur les mers, passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens.
Avant de faire une petite pause de musique, je vous propose le poème intégral de Joachim du Bellay, vous le savez, poète français du VIe siècle, qui a inséré dans le recueil les regrets, les poèmes, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage.
Qui, comme Ulysse, a fait son beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Qui me plaît le séjour combattu, mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux, plus que le marbre dur, me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine.
Cross the world.
Après cette chanson du groupe anglo-australien Dead Can Dance, nommée Ulysse, on reprend notre chemin sous les traces laissées par le mythe d'Ulysse dans la littérature. Après la culture grecque, Ulysse a fasciné aussi celle latine, comme du reste a fait toute la culture grecque, comme le disait l'écrivain latin Horace, qui affirmait « Grecia capta ferum victorem cepit », c'est-à-dire la Grèce conquise par les Romains, et l'a conquis à son tour, son sauvage conquéreur. La culture latine, qui était bien loin d'être sauvage, fut très sensible à cet héros, même si, chez le plus grand poète latin, Virgile, Ulysse assume le rôle du fausseur, du voyou, du grec par excellence, duquel il faut se méfier. Les raisons de ces très mauvais portraits sont, pour ainsi dire, politiques. En fait, le roman s'est voulu descendant de Jean de Troie, c'est-à-dire exactement de la ville sainte que Ulysse avait notamment contribué à conquérir et à piller. Évidemment, Virgile, qui chantait les divines origines des Romains, ne pouvait pas glorifier celui qui, grâce à la tromperie du célèbre cheval, avait détruit la ville-mère d'Énée, c'est-à-dire la ville de celui qui, lui aussi après un long voyage, était arrivé sur les côtes du Latium pour donner naissance à la lignée des Latins. Ce jugement très négatif d'Ulysse sera pour nous très important pour tout à l'heure, parce que ce portrait de Virgile sera la seule source de laquelle l'écrivain italien Dante pourra s'inspirer pour son Ulysse. Mais on y reviendra dans un moment. Toutefois, chez les Latins, il n'y avait, j'ajouterai heureusement, que Virgile. En fait, Horace, qui était un autre grand poète latin, dans ses épîtres, définit Ulysse, un modèle de vertu et de savoir, bien sûr à suivre par tout bon romain. Et un autre écrivain latin, le philosophe stoïcien Sénèque, dans son œuvre « La constance du sage », remarquait le fait que Ulysse, comme d'ailleurs Hercule, avait vaincu, au nom du savoir et de la soif des connaissances, toutes sortes de peurs humaines. Pour Horace et Sénèque, Ulysse était le parfait exemple, exemplum en langue latine, de l'humanitas, c'est-à-dire du sentiment de la culture latine, qui fondait l'homme exemplaire, instruit et toujours curieux. L'homme auquel tous les bons romans doivent aspirer est celui qui se met au service de son prochain et de l'humanité en soi. Et on ne peut pas nier que le voyage d'Ulysse soit celui de toute l'humanité à la découverte d'elle-même, et que les risques qu'Ulysse assume sont ceux de toute l'humanité curieuse et désireuse de savoir. Mais dans la littérature latine, le plus bel hommage qu'on a fait à Ulysse reste celui qui lui a fait Cicéron, célèbre orateur, que, en commentant les passages de la rencontre d'Ulysse avec les sirènes, affirme. Les sirènes lui ont promis la connaissance. Il ne faut pas s'en éveiller si cela pour Ulysse était plus cher que la patrie, tant il était désireux de connaissance. Eh bien, désireux de connaissance, c'est vrai. Ulysse est un homme qui est prêt à tout sacrifier pour aller regarder au-delà de l'horizon, au-delà des limites imposées ou bien auto-imposées, tout comme il a fait par exemple Christophe Colomb pour son fou voyage vers les Amériques. Et à propos de Christophe Colomb, prenons-nous quelques minutes de pause en écoutant ce très beau morceau du compositeur grec Vangelis, morceau composé pour le film 1492, La conquête du paradis. on a effleuré la figure d'Ulysse dans la mythologie grecque et dans la culture latine. Ulysse, homme savant, Ulysse, homme astucieux. Après, en sorte de quelques siècles, nous voyons l'Ulysse de Dante, écrivain qui, avec Pétrarque et Boccace, est considéré le père de la langue italienne, et notamment le principal écrivain en cette langue. Dante, vécu entre les XIIIe et XIVe siècles, et que, on l'a dit tout à l'heure, ne connaissait Ulysse qu'à travers Virgile, dans son œuvre la plus connue, c'est-à-dire la Comédie, ouvre où il imagine un voyage à travers les trois royaumes ultraterrains, tels que l'enfer, les purgatoires, les paradis, place et condamne Ulysse dans l'enfer, en les classant parmi les mauvais conseillers, c'est-à-dire parmi ceux qui ont utilisé les mots et l'astuce pour tromper l'autre et pour obtenir des avantages personnels. Même si Dante le condamne dans les pages que lui consacre, toutefois il n'arrive pas à cacher une certaine complaisance pour la volonté de connaissance de cet héros, qui lui permet d'aller au-delà des limites de la connaissance accordée aux humains, en voulant ainsi presque se comparer aux dieux. Cette volonté de comparaison, de défi même, les Grecs la considéraient un péché d'orgueil, qu'ils nommaient hubris, mot utilisé par le philosophe Aristote, qui indique un excès de présomption, excès qui s'oppose à la tempérance, c'est-à-dire à la modération des sentiments et des passions, typique du sage, du philosophe. C'est exactement le portrait d'Analys, trop prétentieux, qui Dante nous confie dans son œuvre. Dante, en s'éloignant de l'histoire, pour ainsi dire officielle, racontée dans l'Odyssée, imagine son dernier voyage. Ulysse et ses compagnons sont lesses, âgés, et tous les membres de l'équipage sont animés par un seul désir, celui d'y rentrer chez eux, et de pouvoir ainsi profiter en toute tranquillité du plaisir que la dernière partie de leur vie va leur réserver, un repas chaud, une belle maison, les soins d'une femme. Comme vous voyez, c'est une chose tout à fait compréhensible et absolument humaine. Oui, compréhensible pour tous, sauf que par un, notre Ulysse. En effet, en utilisant les pouvoirs de la parole, Ulysse arrive à convaincre ses compagnons à partir à nouveau pour ce que lui-même appelle un faux voyage, c'est-à-dire le voyage qui les amènera à franchir les colonnes d'Hercule, l'actuel Gibraltar, et à perdre leur regard dans l'infini, dans l'inconnu, en défiant ainsi les limites que les dieux leur avaient imposées en tant qu'hommes. Bien sûr, on pourra entendre, par l'expression limite imposée par le dieu, toutes sortes de limites, de règles ou de conventions. Franchir les limites, on l'a dit. Du coup, les gestes d'Ulysse assument l'allure d'un geste révolutionnaire, d'un geste d'un rebelle que, au nom de sa fierté humaine, pousse son cerveau au bord de l'infini. Et Ulysse, par moyen de ses voyages, pousse son cerveau et soi-même au-delà de nos capacités humaines, au nom de la volonté de savoir, de celle de connaître. Bref, Ulysse s'en fiche de ce qu'on lui dit d'être. Ulysse et son équipage sont des hommes, et cela suffit pour aller voir ce qu'il y a au-delà de Gibraltar, ou même au-delà de leur propre esprit, pour passer du connu à l'inconnu, pour passer même de l'humain au surhumain. Malheureusement, d'après Dante, à cause de ses nobles gestes, Ulysse sera condamné à jamais. Au final, son embarcation fera naufrage face à la vision de la montagne du purgatoire, limite de la connaissance humaine. Puis Ulysse et ses compagnons se noyeront, et avec lui se noyeront les rêves humains de pouvoir défier le Dieu. Mais, de ce moment-là, le défi hantera toujours le cœur des hommes. Comme disait le futuriste, mouvement anarchistique italien, nous, bien debout, on lance encore une fois notre défi aux étoiles. À propos d'Italie, on prendra une petite pause avec une chanson italienne qui parle d'Ulysse. Elle s'appelle « Ulysse coperto di sale », c'est-à-dire « Ulysse recouvert de sel », chanson de Lucio Dalla.
Il sole c'è. paura dei sentimenti. E allora guarda, io sono qui, tu aperto ad agio con la chiave, come un tempo. Ho lasciato la valigia sulla porta, ho lasciato la valigia sulla porta, ho guardato intorno, prima di chiamare, chiamare, non ho paura. Ti dico che sono tornato per trovare, trovare, come una volta, dentro questa casa, la mia forza, come Ulisse che torna dal mare, come Ulisse che torna dal mare. Una mano di calce bianca sulle pareti della mia stanza, cielo giallo di cardino, occhio caldo di bambino, tiro il sole fin dentro la stanza, carro di fuoco. Voglio dirti, non rovesciare gli anni come un cassetto vuoto. Ascolta, anche i giovani non hanno paura di un amore. E mai, 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 strappano dal cuore i sentimenti. Io ti guardo, la tua forza è un'ombra di luce. La tua forza è un'ombra di luce. Affondata nel vento del vento. Aria calda, urlano quelle nostre ore, strette in un pugno, urlano come gli uccelli. I sassi si consumano, non si consuma la vita. La giornata è uguale a una mano che è ferita. Io sono Ulisse al ritorno, Ulisse coperto di sale, Ulisse al principio del giorno.
Voici de retour. Le chant d'Ulysse de la comédie de Dante est d'une rare beauté. On ne vous privera pas de sa beauté. On les propose ici en deux versions. C'est l'original en italien et c'est la traduction en français récitée par James Fontaine. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima quella menando, come fosse la lingua che parlasse, agitò voce di fuori e disse: quando mi ripartì da Circe, che sottrasse me più di un anno l'appresso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore la qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me, l'ardore che ebbe a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno, con quella piccola compagnia, dalla quale non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fino il Morocco e l'isola dei Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più inoltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibile, dall'altra Giave lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia per egli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Le mie compagne fecisi aguti con questa razion picciola al cammino, che appena poscia le avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vede la notte, e il nostro tanto basso che non surgia fuor del marinsuolo. Cinque volte era acceso e tante casso, lo lume era risotto dalla luna. Poiché entrati eravamo dell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi d'alta quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto torno in pianto, che della nuova terra un turbo nacque, percorse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta arriva la poppa in suso, e le prore ringiù come altri piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. On souffle un peu. Avant de proposer la traduction en français du chant d'Ulysse, avec une chanson italienne de Enrico Ruggeri qui s'appelle, par hasard, Ulysse.
Con il passato che ho, dopo mille battaglie e pericoli, di niente al mondo mi pento, nemmeno il vento è più curioso di me. Dove mi trovo non so, ma rimane un istante da vivere, per ricordare le porte di tante case dove aspettano me. Portami via, voglia di consumare, tienimi via, chi non mi sa capire, guardi la scia delle mie navi leggere, fammi bere al giorno che verrà e alle carezze passeggere. Magari un giorno verrò, rimanere da soli è difficile, ma l'abitudine a correre troppo forte è più veloce di me, e non si può combattere.
Andiamo incontro all'avventura con le vele al vento, non è rimpianto né paura ciò che sento. C'è montagna né frontiera che potrà fermare chi corre incontro al mondo, il mondo sa guardare. Sono già via, scrivo da questo mare, sono già via, non si farà legare l'anima mia, fatta di roccia più dura, perché l'anima è un concetto senza età, senza famiglia né bandiera. Faremo un salto dentro al buio, non avremo pace, perché nel centro dell'ignoto c'è una luce. Se il cuore nasce marinaio non potrai averlo, perché non basta un altro cuore per tenerlo. Portami via, voglia di consumare, lascia che sia, chi non mi sa capire, guardi la scia delle mie navi leggere, fammi ancora bere al giorno che verrà e alle carezze passeggere. Scegliere una vita non mia, sono di roccia più dura, non gridare che non sento. Magari un giorno verrò, rimanere da soli è difficile, ma l'abitudine a correre è troppo forte come un fulmine.
Portami via,
comincia a capire quanti nasci
delle mie navi leggere.
Fammi ancora bere al giorno che verrà
e alle carezze passeggere.
Se torno vivo non so.
Après ces chansons rock d'Enrico Ruggeri, on veut partager avec vous la traduction en français du chant d'Ulysse.
La partie la plus élevée de l'antique flamme s'abaissa avec un murmure semblable à celui que produit le vent. Ensuite, promenant çà et là sa cime obéissante, comme si elle eût remué la langue, elle jeta des sons en dehors et prononça ces paroles. Je parvins à me soustraire à la puissance de Circé qui me tint éloigné des hommes pendant plus d'un an auprès de ce lieu qu'Aîné a cru depuis devoir nommer Gaëte, ni les embrasements d'un fils, ni la douleur d'un vieux père, ni l'amour de mon épouse Pénélope qui aurait dû assurer son bonheur, ne purent vaincre en moi le désir de connaître le monde, ses vices et ses vertus. Je m'abandonnai dans la haute mer sur un vaisseau avec le peu de compagnons qui s'étaient attachés à mon sort. Je vis l'un et l'autre rivage jusqu'à l'Espagne, la Sardaigne, les îles voisines et la partie du royaume des morts que la mer baigne de ses flots. Moi et mes compagnons, nous étions atteints par la vieillesse qui affaiblissait nos forces lorsque nous arrivâmes à ce détroit où Hercule plaça les deux signaux qui avertissaient l'homme de ne pas pénétrer plus avant. Je laissai Séville à ma droite, comme j'avais laissé Ciota à ma gauche. « Oh, mes compagnons, dis-je alors, qui est arrivé dans les mers de l'Occident ?» après avoir bravé tant de dangers et qui n'avait comme moi que peu de temps à survivre. Ne vous refusez pas en marchant contre le cours du soleil la noble satisfaction de voir l'hémisphère privé d'habitants. Considérez votre dignité d'homme. Vous n'avez pas été appelé à vivre comme la brute, mais vous devez acquérir de la gloire et de sublimes connaissances. À cette courte harangue, mes compagnons furent enflammés d'une telle ardeur pour continuer le voyage qu'à peine aurais-je pu la contenir. Nous dirigeâmes la proue vers le couchant et nous abandonnant à la folle entreprise, nous poursuivîmes notre route vers la gauche. Déjà la nuit voyait se déployer devant elle toutes les étoiles de l'autre hémisphère. L'astre polaire ne se montrait plus qu'à l'extrémité de l'horizon. Nous avions vu 5 fois repaître l'éclat argenté de la lune depuis que nous entreprenions ce grand voyage. Quand nous aperçûmes une montagne que la distance rendait encore obscure et qui était là, la plus haute que j'eusse encore observée, nous nous livrâmes à une joie qui bientôt se changea en douleur. Il s'éleva de cette terre nouvelle un tourbillon qui vient frapper la proue du vaisseau. 3 fois la tempête fit tourner le navire, puis elle fracassa la poupe. Et comme il plut à cet autre, l'océan se referma sur nous.
«
Eh oui, cela se termine mal. Pauvre Ulysse, puni par Dieu à cause de son orgueil. L'Ulysse de Dante, on l'a vu, c'est un homme condamné à rester à jamais dans l'enfer. Sa faute était celle de la mauvaise utilisation de la parole. Mauvaise puisqu'il était employé pour poser son équipage d'hommes dans cette fou folle vers l'inconnu. Vers ce défi blasphème qui entraînait la vengeance de Dieu chrétien dans ce cas, ou peu importe de quel Dieu, à laquelle aucun humain peut se soustraire. En effet, c'est comme si Dante nous avait voulu dire « L'homme est libre, mais à certaines conditions. » C'est-à-dire que la liberté de l'homme est absolue dans un sens humain, c'est-à-dire limitée. Et par conséquent, l'homme ne peut pas aller au-delà des limites imposées par Dieu. Sinon c'est le naufrage, sinon c'est l'enfer, ou bien la connaissance en soi. Connaissance et savoir caché aux hommes par le Dieu. Pensez par exemple au mythe de Prométhée, puni pour avoir volé les secrets du feu aux dieux. Du coup, on peut bien imaginer Ulysse comme un Prométhée, que, au lieu du feu, il vole les désirs de liberté, hors d'un cadre strict et bien défini. L'homme qui défie Dieu, comme il arrive dans le mythe de la pomme d'Ève, par exemple, est puni. L'homme qui veut rivaliser avec Dieu en connaissance, pensez à la tour de Babel, est puni également. Donc l'homme, dans un horizon fermé, ne peut que profiter de sa liberté absolue sur terre, mais il ne peut pas faire autant dans le ciel, royaume notamment de Dieu, ou dans le cas d'Ulysse, dans la mer. On pourrait même dire que l'homme est libre parce qu'il ne l'est pas à cause de Dieu, qui fixe ses libertés, ou qu'un citoyen soit libre puisque sa liberté est réglée, voire limitée par les lois de l'État. En fait, si je, et j'entends, c'est-à-dire je, en tant que moi-même en tant qu'homme, si je dépasse les limites imposées par Dieu, je suis puni, et je ne suis plus libre de profiter de ma liberté. Et même, si je dépasse les limites de l'État, qui lui garantit ma liberté, en assumant lui ma liberté absolue, si je dépasse ces lois, je me retrouve dans l'âge de nature, dans la période de l'homme homini lupus, c'est-à-dire de l'homme loup pour l'autre homme, scénario évoqué avant la signature du contrat fondant notre société civile, par le philosophe anglais Hobbes. Scénario où je ne suis pas libre, parce que ma liberté appartient à tout le monde, c'est-à-dire à tous les loups qui peuvent me la prendre quand ils veulent. On pourra rajouter aussi une autre considération par rapport à la thématique du voyage. Normalement, voyager, c'est rechercher. Et normalement, ce qu'on recherche, c'est le bonheur. Ulysse voyageait pour son bonheur intellectuel, c'est-à-dire pour désexalter sa soif de connaissances humaines. Ulysse d'Homère, Ulysse classique, recherche dans la connaissance de l'homme son bonheur d'homme, pas plus. Au contraire, pour Dante, un vrai Ulysse aurait dû rechercher les saluts dans la vision de Dieu en toute sa splendeur et vérité, vu que le navire de la connaissance humaine ne peut pas être le logos, l'intelligence, mais ce navire est la foi. Celui d'Ulysse, homme grec et homme du logos, est en voyage sans Dieu. Mais a-t-il eu le droit de connaître, ou bien ai-je le droit de m'embarquer dans les vaisseaux de mon intelligence et de me servir de mon cerveau en tant que gouvernail parmi les vagues de la vie? Le philosophe Kant nous murmure à ce sujet, sapere aude, c'est-à-dire homme, ose savoir. Ok, c'est bien, je veux savoir, mais ce n'est pas une question de volonté. C'est question de me dire, est-ce que j'ai le droit de franchir les colonnes d'Hercule, les colonnes qui étaient à Gibraltar, où il était marqué, on le sait, nec plus ultra, c'est-à-dire pas au-delà. La thématique est très intéressante. Ai-je le droit de défier le Dieu dans l'acte de connaissance ou bien de création? Est-ce que j'ai le droit d'aller au-delà? Parfois, on le sait, ça vaut mieux une chaude maison que le vent froid de la mer. Aller au-delà entraîne des risques, des changements, des peurs, des nouveautés inattendues. Peut-être que ça vaut la peine, ou peut-être pas. C'est chacun qui en tirerait ses réflexions. J'aimerais vous laisser avec un sublime passage de l'humaniste italien, Pic della Mirandole, où il élucide sa conception de l'homme. Un homme qui doit être homme et caméléon. C'est-à-dire un homme qui tout le temps changeant, un homme aux mille tours comme Ulysse, un homme qui se forge par soi-même et qui forge soi-même son chemin.
Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaité, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites, toi, Aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que doté, pour ainsi dire, du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en forme inférieure, qui sont bestiales. Tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en forme supérieure, qui sont divines.
Je vous remercie pour ce beau voyage ensemble. Je remercie Radio Fréquence Mistral, je remercie Camille, et je remercie la voix de James Fontaine, et même James Fontaine. Et je vous dis à très bientôt.
Et moi, je vais dire merci à Camille, qui nous a fait la régie. Je vais dire merci à mon ami Marco Cacavo, un ami qu'on sait fidèle et qui ne jamais ne trahit. De te remercier d'avoir eu l'audace de faire ce type d'émission, et je te souhaite, donc c'est la première, j'espère qu'il y aura un rendez-vous régulier et que les auditeurs auront appris des choses. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis vraiment ravi. Je me suis fait chier longtemps dans des cours de littérature quand j'étais à l'université, et là je me suis éclaté parce que j'ai compris que Ulysse aimait le rock and roll. C'est bien ce que j'ai
c'est ça. Surtout du rock and roll italien, on l'a vu avec Enrico Ruggieri.
Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci à toi.
Merci James.
Merci James Fontaine et merci Marco Cacavo. À très bientôt.